section poète d'aujourd'hui. Alors, comme à Bonheur FM, on aime la musique, on aime la poésie, c'était l'occasion rêvée d'en parler un peu avec vous. Et nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, car nous savons que votre emploi du temps est surchargé. Vous arrivez d'une tournée en Belgique, vous partez pour une série de récitals au Japon, et entre-temps, vous enregistrez un disque, vous sortez un livre.
Oui, alors je vais vous dire une chose, vous dites que je suis... Vous me faites passer pour un personnage extraordinaire. C'est une chose qui a débuté il n'y a pas longtemps. Je suis devenu le type extraordinaire. Ça m'ennuie parce que je suis toujours pareil, moi. Moi, je suis comme tout le monde. Comment dire? C'est difficile à expliquer, ça. Moi, quand j'ai fait ça, je ne pouvais pas faire autre chose.
Oui.
Et d'ailleurs, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais de la voix. J'ai chanté, j'ai écrit parce que j'avais de la voix. Sans voix, je n'aurais pas écrit. Voilà. Alors, je suis un chanteur.
Ça, on savait.
Oui. Au début, quand je faisais mes chansons, ça passait. Je fais des clients petit à petit, quoi. Mais j'étais vraiment le type qu'on regardait loin, comme ça, à la radio. Je passais à la radio, on se l'écoute en disant oh là là, quand celui-là, moi je savais, quoi. Alors un jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en plus chez moi, que les gens m'octroyaient, quoi. J'étais le diable. Alors je suis devenu le diable.
Vous êtes entré dans la peau du personnage qu'on vous prêtait.
Voilà, c'est ça. Mais oui.
Et vous y sentez bien?
Oh, moi je suis très bien. De toute façon, je suis très bien et je fais des mots en ce moment. Enfin, le diable, c'est pas mal, c'est une bonne compagnie, quoi.
D'ailleurs, dans vos chansons, on est souvent damné, maudit, proscrit. Et effectivement, le soleil noir, la musique noire éventuellement, j'ai une fois vu cette expression. Ça vous convient tout à fait.
Oui, et puis je crois que les gens aiment bien ça, mais ils restent un peu en dehors, parce que les gens comme nous sommes maudits, quoi. C'est vrai, quoi.
Un poète, c'est maudit par nature.
Maudit. Alors le poète qui est maudit et qui ne peut pas s'en sortir parce qu'il ne vend pas ses livres, parce que c'est difficile, c'est terrible. Moi, la voix nous permet aujourd'hui, avec comment dirais-je, la multiplication de la voix par le disque. Et c'est pour ça que je dis que nous vivons une époque abominable et extraordinaire à la fois. Et cette multiplication par le disque, c'est une histoire extraordinaire, quoi.
Justement, parlons-en de ce disque. Il est fait d'un certain nombre de chansons que vous n'aviez jamais chantées en public, que vous n'aviez jamais enregistrées, je crois. Alors, paroles Léo Ferré, musique Léo Ferré. La mélodie aussi, la direction d'orchestre, c'est vous. Et puis vous avez quand même fait appel à des vieux copains qui ne vous quittent pas depuis des années, des gens qui s'appellent Baudelaire, qui s'appellent Rimbaud, qui s'appellent Mallarmé, qui s'appellent Apollinaire.
Non, pas Mallarmé, Verlaine, Apollinaire, oui. Oui, bah, ça c'est formidable. Alors, j'aimerais bien, de temps en temps, j'ai l'impression, l'autre jour, je faisais le bateau ivre en scène, comme c'était très difficile.
Le bateau ivre?
Oui. De Rimbaud, au début, c'était très difficile pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre ce texte, avec cet enregistrement, ce double enregistrement que j'ai fait, n'est-ce pas? Le disque, ça a été fait très vite, mais quand j'ai mis ça sur la scène, oh là là. Alors, j'avais l'impression, et je le disais, puis c'était évidemment, malgré moi, de la comédie. Je disais, c'est Arthur qui veut pas que je mette la musique là-dessus, c'est Arthur qui veut pas. Parce qu'en définitive, aurait-il voulu? Je sais pas, et je me rends pas compte.
Mais c'est des questions qu'on peut se poser, et puis on peut évidemment pas les poser à eux, parce qu'ils sont plus là pour nous le dire. Mais je me souviens avoir un jour interviewé Louis Aragon, et nous avions parlé de ces poèmes que vous aviez mis en musique. Et il m'avait dit qu'il était, au début, extrêmement... désarçonné par l'usage que vous aviez fait de sa, je ne vais pas dire sa prose, au contraire, de ses vers, et en particulier par la répétition de certaines phrases, de certains vers. Oui. Seulement, après, il a reconnu que vous apportiez quelque chose à ce qu'il avait fait.
Oui, parce que souvent j'ai écourté des poésies.
Oui, mais vous avez répété comme un refrain.
Oui, oui, d'accord.
Certains vers.
C'est indispensable.
Et vous l'avez fait oui. Dans le bateau ivre.
Oui. Oui, je crois qu'il fallait le faire.
Rimbaud, vous l'avez fait aussi dans ce disque.
Oui. Et dans le bateau ivre de Rimbaud, il fallait le faire parce que, oui, j'ai répété plusieurs fois les huit premiers quatrains.
Oui, oui.
Alors, les deux premiers.
C'est un leitmotiv.
Oui, et je crois que c'est ça, parce qu'en définitive...
Et ça a une force assez impressionnante.
C'est l'histoire, c'est le bateau qui parle, bon, puis qui rentre, et c'est lui qui parle, en définitive. Mais c'est beaucoup plus le bateau que Rimbaud, quoi. On a fait dire que c'était lui qui faisait le bateau et tout ça, c'est pas vrai, quoi. C'était le bateau qui parlait par la bouche de Rimbaud et qui disait, bon, maintenant j'ai fait tout ça, puis j'en ai assez de vos histoires. J'en ai assez, je vais rentrer chez moi, puis à marre, quoi.
Mais là, on n'a pas de doute sur l'interprétation que vous donnez. Seulement, aucun de ses amis poètes n'a pu venir vous dire « Tu m'as mis en musique d'une façon qui me convient » ou
« Ah oui. Alors,
ou là, tu m'as coupé d'une façon qui ne me
oui, là,
convient
c'est,
pas ».
C'est le...
Mais vous voyez que Aragon, lui... Et vous l'avez, il vous l'a dit certainement de vive voix très souvent, Aragon se trouvait très heureux du traitement que vous lui aviez infligé.
Oui, je parle, j'ai infligé un gros traitement. Je pense que s'il fallait faire une chanson, il fallait que ce soit pas trop long quand même, quoi. Il y avait des poésies qu'il avait faites qui étaient très 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 longues. L'étrangère, par exemple, c'était très long, quoi.
Oui, donc vous avez fait des morceaux choisis.
Oui, il m'a rien dit d'ailleurs.
Oui, enfin, vous vous êtes vu pas mal. Au moment où vous avez fait ce.
Mais oui, il était très content. Il m'a pas fait de réflexion sur les. Je lui ai expliqué pourquoi. Je disais dans les Assassin's Creed Zombies, là, ben, je finissais pas comme un soleil révolu. Lui, il disait pendant le cours de son poème, quoi. Puis j'ai continué après.
Bon. Oui, vous avez fait une synthèse, là.
Oui, je pense que c'était le. Ben, j'ai fait comme ça. Mais c'est difficile. D'autant plus qu'il a été étonné, lui, parce que les surréalistes ont ignoré la musique, tous. Ah oui.
Et vous avez bien ignoré la peinture pendant longtemps.
Ah oui, mais moi, je n'ai gêné personne. En ignorant la peinture, et puis je l'ai dit après, quoi, parce que... oui, c'est terrible, ça. Parce que je voyais la peinture sur les livres, comme ça. Et puis on m'a mis dans les musées. J'ai horreur des musées, quoi. Parce que si je vois un tableau qui me plaît, j'ai envie de le prendre. Je ne vais pas lui venir voir au musée, vous comprenez. Et un jour, je suis dans une exposition de juste après la guerre, après l'occupation de Van Gogh, au musée du Louvre. Je suis rentré dans la première salle, il y avait les Van Gogh, j'ai regardé, j'ai sangloté immédiatement. Fantastique. En regardant les corbeaux.
Mais si nous en revenons à la composition, je me demande un peu comment vous faites pour mettre en musique ces poètes, parce que vous, quand vous créez, si je peux dire, quand vous composez, vous faites ça globalement, je crois.
C'est-à-dire
que vous vous mettez au piano, et puis tout arrive en même temps, le texte, la mélodie, l'accompagnement.
Bon, ça dépend, hein. Mais en tout cas, pour les poètes, j'ai pris la précaution de chanter immédiatement, ou alors de tourner la page. Je veux dire qu'il fallait que ce soit improvisé. Donc j'étais sûr de ne pas avoir à choisir une musique après, parce que je pouvais faire deux, trois musiques différentes sur la même poésie, et après je n'aurais pas su choisir. Tandis que là, je chantais immédiatement. Si je chantais immédiatement, le premier vers, même si je ne lisais pas le poème, tac, et j'allais jusqu'à la fin. Sinon, je changeais. J'allais voir autre chose, quoi.
Oui,
j'ai fait, à deux, trois exceptions près, c'est comme ça que j'ai mis en musique les poètes.
Eh bien, on va essayer peut-être de voir un premier résultat. Si on passait la chanson qui a donné son nom au disque, c'est-à-dire Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ces nouvelles chansons, vous les avez composées récemment ou alors il y a des textes qui datent d'un certain temps?
On n'est pas sérieux. Quand on a 17 ans, je l'ai fait un peu avant que mon copain belge m'apporte cette photo. C'est à ce moment-là que j'ai dit, tu vois, sur un album que je ferai, sur une pochette, je
mets. Parce que c'est votre fils aîné, c'est Mathieu qui est sur la pochette.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, voilà. S'il ne m'avait pas apporté cette photo... Je crois que peut-être que j'aurais pas.
Vous n'auriez pas eu l'idée de faire cette mise en musique.
Oui, mais il y a des musiques que j'ai faites que je garde comme ça longtemps. Quoi. Bon, je repars avec Colloque Sentimental. Qu'est-ce que je cherchais là? On cherchait quoi?
Non, mais je vous demandais si vous aviez composé ces chansons.
Oui, alors je te dis. Oui, c'est récent. Enfin, il y a deux ans. Colloque Sentimental, c'est récent. Les cloches à la tzigane, c'est récent. Les morts qui vivent, ça peut paraître. C'est une poésie de moi qui est paru dans le poète de vos papiers il y a très longtemps, 57, 56. Mmh. Tout ce que tu veux, c'est récent. Gabi, c'est une chance, une chose que j'ai improvisée au studio même.
Ah, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce que ça signifie, Gabi. Je me suis posé des tas de questions.
Et Gabi, c'est un type qui avait moi, je chantais dans les cabarets. Et il avait une cave en dessous de son café qui s'appelait La Pergola. Je ne sais pas si elle existe toujours, ça doit exister. Près du métro, juste à 3 mètres.
Un Mabillon ?
Oui, de Mabillon.
Ça ne s'appelle plus La Pergola depuis quelques mois.
Ah bon. Et dessous, il avait...
Une cave.
L'Arlequin.
Un caveau ?
L'Arlequin.
Oui.
Qui pouvait contenir jusqu'à 200 personnes. Mmh. Alors, je suis arrivé là, je suis resté peut-être 2 mois, ou 1 mois et demi, et j'imagine... Les gens venaient de plus en plus, ils me connaissaient là, ils revenaient, ils disaient aux autres, tu sais que je vais avoir Ferré là-bas, Léo qui chante, etc. Et il a compris que j'allais lui être indispensable. Et alors il m'a dit, allez, c'est fini. Voilà. Il a eu peur, vraisemblablement, que je demande d'argent en plus, quoi.
Et il a arrêté les frais.
Il a arrêté les frais. Et je suis parti. Et c'est un type qui comptait, il était à son unité, pas antipathique ce type. Il ressemblait à un compteur, quoi. Et il comptait les trucs, les machins, la bière, le temps et tout ça. Et il était à Saint-Germain-des-Prés. Alors moi, à Saint-Germain-des-Prés, je chantais là-bas le soir, mais je n'ai jamais fréquenté personne. Parce que ce milieu était abominable, quoi. C'est ce que j'appelle les écrivailleurs, les littérateurs, vous connaissez aussi. Ça me gênait, je ne pouvais pas les supporter.
C'est-à-dire qu'il y avait une faune qui se greffait sur les véritables littérateurs.
Oui, puis les véritables littérateurs, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie de la faune aussi, hein. Excusez-moi, oui. Ouais. Parce que là, écrire, on disait que machin allait écrire au bistrot, c'est pas vrai, il n'écrivait pas au bistrot, il écrivait chez lui. Puis il fallait voir tous ces gens. On remarque que les gens ont besoin peut-être d'aller au bistrot, se regarder, et se faire regarder, quoi.
Oui, alors, c'est bien connu, c'est la grand-messe.
Voilà, c'est ça. Alors Gabi, j'ai fait ça, je lui ai parlé. Et là, j'ai appris un jour qu'il était mort, il y a assez longtemps d'ailleurs.
Et vous avez composé son épitaphe ?
J'ai pris une musique et puis il fallait que je finisse le minutage d'un des disques là-dedans, d'une des faces. Alors j'ai parlé à ce type, j'ai improvisé ça, quoi. Alors après, il a fallu que j'écrive. C'est pour ça que...
Mais vous l'avez écrit sur un coin de table restaurant ?
Après, non.
Sur un papier de nappe en papier ?
Je l'ai écrit, alors c'est pour ça que le distributeur de disques, Nakla, m'a dit on va le mettre comme ça dedans.
Oui.
C'est-à-dire que ça n'est pas tapé à la machine.
Il y a le facsimilé de votre écriture.
Voilà.
Bonheur FM s'est donné un fil conducteur, un fil rouge, qui est l'enfance, la jeunesse et la famille, les parents. Ce sont des concepts qui ne vous sont pas étrangers, puisque vous sortez un album qui a pour titre « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». On va parler de ces concepts, l'enfance, la jeunesse, etc. Mais toujours à propos de radio, est-ce que vous avez découvert des choses ces derniers temps ? Et en particulier chez les jeunes. Je sais que vous êtes très attaché aux jeunes. On a connu vos expériences avec Zoo, avec des groupes rock. Des jeunes aujourd'hui.
Les jeunes chanteurs ? Vous savez, je ne les connais pas tous, et puis il y a beaucoup de gens défectueux, quoi. C'est pas possible.
Autre mot affreux, le top 50.
Ah, c'est pas possible, ça. Mais vous savez, le top 50, ça vient de quoi ? Ça vient de Salut les copains, vous savez, ça.
Léo Ferré n'a pas eu de coup de cœur ou de coup de foudre pour la chanson ces derniers temps ? De nouveaux artistes
Non, pas du tout, non. Vous savez, remarquez que moi, je vous ai dit que j'écoute ça dans la voiture. Alors, mais je pense pas qu'il y ait peut-être tellement de génie. Le génie, c'est rare, vous savez. Hein? Vous savez que c'est rare, le génie. Hein? Il y a un groupe. Moi, un jour, j'ai demandé à travailler avec Pink Floyd. Hein? J'étais à Europe numéro 1 avec ce type qui s'appelait Desjeunes, qui est mort d'ailleurs, qui s'est suicidé, je crois. Et le type était comme ça derrière votre copain là-bas qui est derrière le studio là avec ses fumes. Il reçoit un coup de téléphone qui lui a dit c'est ici l'agent de Pink Floyd, c'est possible de faire ça. Alors j'étais content. Et Pink Floyd les a plus vus. Vous comprenez, ces gens avaient du talent beaucoup. Hein. Et puis le Beatles, évidemment, c'est du talent. Et en Amérique, il y a eu quelques groupes. Mais comment voulez-vous? Vous savez combien il y a de groupes en Amérique? C'est incroyable. Et en Italie, ils viennent tous ces groupes de là-bas, enfin, une partie des groupes américains. Hein. Et puis les Italiens les Italiens chantent en anglais, monsieur. Vous comprenez? Alors, merde. excusez-moi, hein. Ça fait partie du bonheur de pouvoir dire ce qu'on prétend dire. Hein.
Je vais vous poser une question indiscrète quand même. Quel est le dernier disque que vous avez passé sur votre platine, chez vous?
Alors, je crois que c'est un compact pas terrible, parce que ça a été repris d'un ancien disque qu'on m'avait donné ça pour voir ce que c'était, parce que je connais bien la partition. C'est Alexandre Nevsky, je crois. J'écoute avec l'oreille technique maintenant, j'écoute plus de musique. Vous comprenez?
Mais on va peut-être, en attendant, écouter de la musique et des paroles de Paul Verlaine avec le colloque sentimental.
Pour les jeunes, la poésie, c'est plus branché. C'est de la chansonnette, c'est Rita Mitsouko, c'est tous les groupes qu'on va poindre. Si vous aviez 3 recueils de poésie à conseiller, qu'est-ce que vous conseillerez?
Le Fleur du Mal, Verlaine et puis Rimbaud, Les Saisons d'Enfer ou bien les poèmes, c'est les 3 plus grands poètes. Les gens. Je vais pas dire que les jeunes n'aiment pas la poésie. Il y a des jeunes qui viennent me voir, vous savez, qui connaissent Verlaine et Rimbaud et Apollinaire. Si on leur ouvrait un peu la porte, là, seulement non, on la leur ferme. On leur fait écouter des conneries. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Vous connaissez ça? 59 fois, il le dit dans le disque, ce type-là. Et on passe toujours ça.
Nous avons constaté quand même un renouveau d'intérêt pour la poésie. Même sur Bonheur FM, il y a une quinzaine de jours, nous avons publié des interviews de personnes qui créent des clubs de poésie et qui récitent des poèmes le soir, éventuellement avec un accompagnement musical ou des intermèdes musicaux. Et je crois que c'est très encourageant.
Je comprends, diable.
Mais vous pensez que les conditions de vie actuelles sont incompatibles avec l'écoute de la poésie?
Non, pourquoi? En plus, c'est beaucoup plus facile avec tous les moyens qu'il y a maintenant, quoi. C'est vrai.
Les moyens de communication?
Oui.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un minimum de culture pour goûter la poésie?
Écoutez, quand j'ai fait Pauvre Rue du Bœuf, on était en 57-58, j'habitais sur la frontière de Neuilly à ce moment-là, dans le 17e. Je vais acheter mes cigarettes, je sors, je vois un camionneur à son volant qui se penche comme ça et qui me dit « Alors Léo, je vous jure, je vous cite également, alors Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf à la tête ?» Et je me suis bien défendu de lui dire qu'il se trompait, parce que je me suis dit tout de suite « Toi, tu sauras que c'est pas le bœuf, que c'est rue de bœuf. » Parce que tu t'intéresses à ça. Alors, formidable, non?
Donc c'est une perception globale de la poésie et de la musique, sans en comprendre exactement le sens et le détail des paroles.
Eh oui, ça, à ce moment-là, ils écoutent la musique, et puis ils voient un peu les paroles, et puis ils reviennent, parce qu'ils remettent le disque, quoi, c'est ça.
Oui.
Si vous dites la poésie, on ne remet pas le disque.
Oui. Toujours à propos de langue française, imaginons que vous êtes monsieur littré et que vous devez donner une définition du mot enfant.
C'est une époque trouble, et qu'on rend trouble, les enfants on les connaît mal, et on les habitue à être des prisonniers. Et moi je crois que le mot enfant, ça veut dire, pour moi en tout cas, ça veut dire malheur.
Par référence à votre enfance particulièrement?
Moi, j'ai pas été, je veux dire, physiquement, physiologiquement, j'ai pas été malheureux quand j'étais petit, mais j'étais évidemment seul. Le jour où je me suis rendu compte que j'étais musicien, je savais pas, je croyais que j'étais malade, enfin, c'est terrible. Je croyais que tous les gens étaient comme moi. Moi, je dirigeais des orchestres, j'avais 4 ans, j'en dirigeais un dans la rue comme ça, mais la musique, je connaissais pas la musique, il y avait pas de disque, hein. Il y avait la radio, c'était des radios qui commençaient à peine, nasillé. J'avais une cousine beaucoup plus avec moi, une grande cousine, qui avait épousé mon cousin, qui était grand, hein, et qui écoutait le jazz, le vrai jazz. Hein. Alors elle me disait, écoute le jazz, alors j'écoutais comme ça, quoi. Et alors j'allais dans la rue, et je dirigeais des orchestres qui n'existaient
imaginaire.
Pas. Imaginaire. Et oui, et puis je faisais des réflexions. J'avais jamais vu un concert, vous comprenez, hein? Et alors, le jour où je me suis aperçu que j'étais pas comme tout le monde, que j'avais quelque chose en plus, ou en moins, bien sûr, je me suis caché. Ça a été terrible. Vous savez, une chose qui me poursuit comme ça, pas trop, sans trop me faire mal, je pense pas au passé. J'avais prétendu que j'avais mal aux pieds, tout ça, comme ça, le samedi, ma mère me permettait, me disait de venir à la maison pour passer la nuit à la maison. Je quittais le collège, je faisais 30 km en train, alors quand j'arrivais dans ce train, c'était fantastique, ce train, c'était...
C'était la liberté.
Je retournais de la Chine, quoi, parce que j'étais rentré en Chine à 30 km de chez moi, quoi. Et alors je rentre dans ce train un soir, et dans le wagon, il y avait... personne, et dans les compartiments, évidemment personne. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré, j'ai fermé le compartiment, et je me suis mis à sangloter en dirigeant un orchestre. Alors là, ça m'a... Je le raconte maintenant, jamais je l'ai raconté. Vous comprenez que je ne suis pas rentré à la maison en disant ça, hein.
Je vais vous poser une dernière question, si vous me le permettez. Vous êtes un personnage public, on voit votre photo assez souvent. Et puis, quand les gens voient votre photo, il y en a certains qui pensent le lion, Ferré, il y en a qui pensent Paname, il y en a qui pensent une chanson, il y en a qui pensent Verlaine. Moi, quand je vois une photo de vous, il y a une phrase qui s'inscrit dans ma tête, c'est « je te donne ». Et « donner », c'est un mot qui revient souvent dans vos textes. Qu'est-ce que vous voulez encore donner? Vous avez donné beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez donner encore?
Moi, si je pouvais, je donnerai tout, hein. Je parle pas d'argent, bien sûr, mais c'est trop facile, parce qu'on n'a jamais assez d'argent pour donner tout, quoi, bon... Si je devais faire quelque chose, mais qu'est-ce que je ferais? Je donnerais aux gens le besoin d'amour. Et puis, vous savez qu'on peut passer dans la rue. C'est ça, moi je dis, il n'y a plus besoin d'armes. Il n'y a plus besoin d'armes. Hein. Ou les armes, elles vont disparaître. Vous savez qu'elles vont disparaître. Moi je le sais. Je peux vous dire pourquoi. Parce que je ne peux pas tout dire. Hein. Et quand je dis ça, les gens m'écoutent comme ça en disant, qu'est-ce qu'ils racontent? Je ne peux pas tout dire. Mais un jour, les armes ne vaudront plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passera? Quand je raconte ça pour qu'on comprenne bien, je vois un type dans la rue qui vient avec une kalachnikov, comme on dit, hein, et qui me... Alors je le vois, je lui dis, tire. Alors le type, il me regarde comme ça, puis je lui dis tellement tire, qu'il tire. Et les balles s'arrêtent devant moi, là, comme ça. Parce qu'il avait un sacré morceau de balle, tac. Et je lui dis, maintenant fais attention, si tu tires encore, les balles vont se retourner sur toi. Et ça, il le croit, puisqu'il a vu ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la kalachnikov, il vient, il me lèche les pieds, vous comprenez? Et il crève d'ennui et de honte. Voilà. Les mots, c'est plus fort que les armes. Et ça vient.
Maintenant qu'on est vraiment branché sur la poésie, on pourrait peut-être parler de ce volume de poésie qu'a publié Segers.
Oui.
Il n'y a pas longtemps que c'est sorti. Ce sont des textes que vous aviez mis en musique, sur les textes que vous aviez gardés par-devant vous.
Je n'avais, et puis il y a eu un problème. Vous avez eu une affaire avec Segers. J'ai eu une affaire avec Segers. Segers était un camarade, un type dont j'avais mis en musique deux ou trois chansons, dont Merde à Vauban, là, vous savez. Et alors il a. Charles Estienne est venu me voir un jour, il me dit. Je voudrais écrire un livre sur toi, comme ça, faire quelque chose avec tes poésies. Alors j'ai dit, il me dit, je crois que Segers serait intéressé. Alors j'ai dit, bon, et Segers, j'ai dit, Segers a une condition, c'est qu'il me mette dans les poètes d'aujourd'hui, exprès, hein, comme une taquinerie, quoi.
Hein. Oui, parce que l'ouvrage précédent, le 92, puisque le vôtre c'est 93, était consacré à Mallarmé.
Devant moi, il y avait Dylan Thomas, le poète anglais. Et moi, j'étais le dernier. Bon. Mais l'armée est venue après, 94.
Bon. D'accord.
Alors, 94, puis 95, il y a le directeur littéraire de chez Segers, qui avait... Parce que mon livre se vendait. Il se vendait, pourquoi? Parce que les poètes... moi, j'étais le chanteur, le chanson, les gens ont acheté. Alors, ils en ont vendu beaucoup. Et ils m'ont dit... le directeur littéraire a été voir Brassens en lui demandant d'entrer. Brassens a accepté. Et même que Segers m'avait dit, tu sais, moi j'avais rien demandé à Segers. Je ne sais pas demander les choses. Et il m'avait dit, Brassens, il a demandé 10 millions d'avance. Et j'ai dit, mais il a bien fait. Et moi, je suis un con. Et lui est intelligent, il pense à ses affaires, il ne veut pas qu'on l'exploite. Parce que tu vas vendre des livres et tu récupéreras ton argent, ce qu'il a fait d'ailleurs. et Brassens, et après il y a eu Brel, et puis alors après c'est descendu à Aznavour, tout ça, et puis et Claude François, c'est incroyable, et puis des petites machines comme ça, ouais. Et un jour, un type vient me faire signer un livre, je regarde, il y avait sur la
tranche,
dans le livre, il y avait numéro 1, et derrière, poésie et chanson, puis en parallèle, perpendiculairement, pour être aujourd'hui, mais poésie et chanson, numéro 1. Et alors, j'ai dit, mais comment ça se fait ça? Comment ça se fait ça? Dans mon contrat, il y avait poète d'aujourd'hui. Bon, j'ai dit, mais regarde dans la tête. J'ai été obligé de crier, je lui ai dit, parce que, écoutez, enlever ce livre-là, vous le retirez.
De la
derrière. Derrière les trucs pour les autres livres, je regardais, un jour j'ai regardé, il y avait 92 Dylan Thomas, 94 Mallarmé, 93 disparu. Alors ça m'a foutu en rogne ça. Et j'ai attendu longtemps, maintenant on m'a remis dans la collection avec ce livre de Charles Estienne, et c'est pour ça que j'ai accepté d'en faire un deuxième avec la préface de Françoise Travelet.
Françoise Travelet, c'est un peu votre historiographe, si je peux me permettre cette expression de l'Ancien Régime. Mais je vous ai entendu dire un jour qu'elle vous connaissait mieux que vous ne vous connaissez vous-même. C'est vrai, ça?
Ah, je sais pas. Ça exagère un peu, je crois.
Ah, c'est vous qui l'avez dit?
Hein?
C'est vous que j'ai entendu dire.
Ah.
Elle connaît des détails de ma vie qu'elle me rappelle alors que moi, je les ai oubliés.
Ah oui, d'accord. Alors là, elle oublie rien, elle. Quand je lui dis quelque chose, elle se rappelle, hein.
Donc, il s'agit d'un deuxième volume dans la collection de poètes d'aujourd'hui. Le premier date de 25 ans, quelque chose comme ça.
De 5, oui, de écoutez, 62.
Et alors le second, celui qui vient de sortir, il porte également votre numéro matricule 93, mais cette fois c'est 93-2.
Oui.
Et il s'intitule en sous-titre « Les années galaxies ».
Oui.
Vous êtes très impressionné par les galaxies.
C'est pas moi qui ai inventé ce sous-titre.
Oui, mais c'est un vocabulaire qui vous est assez familier.
Oui, mais je crois que je peux l'abandonner parce que la galaxie, on voit ce mot partout maintenant.
Oui, mais enfin, vous parlez de millions d'années, lumière.
Ah oui, ça c'est extraordinaire. Vous savez qu'à propos du million d'années, lumière, je vous dis un truc que personne ne sait. L'autre jour, j'ai vu dans une revue, on vend une montre, comme ça là, un bracelet montre, hein. Une montre, je sais pas, qui doit être, à savoir, japonaise, je sais pas quoi, encore japonaise revue et corrigée. Qui coûte 9 500 francs, donc très cher pour une montre bracelet comme ça, simple. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle varie d'un millionième de seconde par an. Ça fait que pour que cette montre varie de une seconde, il faut un million d'années. C'est extraordinaire. Alors je dis, soyons en retard.
Vous avez aussi un projet, je crois, d'autres textes de vous, bien sûr, qui vont être édités un imprimeur qui a demandé à des peintres de faire des illustrations originales.
Oui, une Grésivaudan. Oui, enfin, c'est un grand livre, mais ce ne sera pas en librairie, quoi.
Ah oui, d'accord. C'est un ouvrage en souscription, un ouvrage luxueux avec des illustrations originales.
Un ouvrage luxueux en 300 volumes, je crois.
Oui.
Et puis après, il y a 5000 volumes beaucoup moins chers, quoi.
Oui.
Mais quand même.
Mais c'est le contenu qui nous intéresse surtout.
Eh ben alors, il y a tout, mes inédits qui sont dans le testament phonographe et qui sont inédits. Parce que j'ai horreur des éditeurs. Les éditeurs, la plupart du temps, sont des mal appris.
Mais est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes fait éditeur vous-même? Parce que je crois que vous avez monté une imprimerie chez vous.
Oui, j'ai une imprimerie parce que un jour j'avais vu un ouvrier qui travaillait avec ses mains, j'ai eu honte. Je lui ai rien dit, bien sûr. Il faisait quelque chose d'intéressant, quoi. Alors, comme j'aimais bien les lettres, la typographie, j'ai acheté un petit appareil tout petit où je margeais à la main, une offset. Et puis, j'ai tout acheté après. Ça veut dire que maintenant, je suis un des rares types qui puisse faire un livre tout seul, sans personne, comment dirais-je, sans me faire aider de personne, tandis que dans une imprimerie, il y a un type qui sait faire qui fait les lettres, la typographie maintenant, avec l'ordinateur, bien sûr. Un autre qui fait les reprises de je ne sais quoi, un autre qui coupe le papier. Ils ne font que ça. Alors, moi je suis un Gutenberg à l'heure galactique.
Mais vous êtes en somme un véritable imprimeur.
Eh oui, ça m'a plu beaucoup, l'imprimerie. Mais ça se perd. Si vous voyez les livres maintenant, la plupart des livres sont... C'est terrible, ça. Il n'y a plus de marge, il n'y a plus rien du tout. Ils coupent tout, quoi. Le testament phonographe, c'est une ordure.
Vous voulez parler du...
Oui, testament
de l'édition, proprement dite.
L'édition, une ordure, faite par des ordures, d'ailleurs, qui sont fait passer pour des anards. Et moi, j'ai pas signé de contrat, parce que j'estime que... De temps en temps, ça me prend, ça, de signer avec en donnant un serment de main, ça vaut, pour moi, ça vaut de signer un contrat. Et bien, il y a des gens avec qui il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il a vendu, je sais pas, 30 000 livres. Enfin, ce type, il me doit, comme on dit maintenant chez les jeunes, même pas chez les jeunes, chez les demi-jeunes, parce que les jeunes parlent en nouveau franc, il me doit 18 bâtons, quoi, que je ne verrai jamais.
On est à parler de votre maison, où se situe cette imprimerie. On peut peut-être vous demander pourquoi vous avez choisi l'Italie, parce que effectivement, depuis près de 20 ans, vous habitez tout près de Florence, au milieu du vignoble de Chianti.
On ne choisit pas ça. C'est les circonstances qui choisissent pour vous. Voilà. Moi, j'aimais bien l'Italie. Mais maintenant, j'ai envie de partir de temps en temps parce que les Italiens, c'est pas terrible non plus. Hein. Et je pars pas parce que mes enfants sont à l'école là-bas. Il me serait difficile de leur dire « Allez, maintenant, terminé, vous allez à l'école en France » alors qu'ils sont comme de jeunes Italiens, quoi. Voilà. L'Italie, c'est un pays dont je suis originaire puisque un jour, j'ai appris... que mon arrière-grand-père s'appelait Evasius Ferré. Et mon père ne me l'avait pas dit. Et j'ai appris comme ça, parce que les frontaliers ne peuvent pas s'entendre. C'est-à-dire, hein, vous savez ça, hein. Et mon père m'a dit, mais comment tu as su ça? J'ai dit, mais c'est un généalogiste, il m'a écrit, il m'a dit, vous me donnez un peu d'argent, et puis je vous dirai d'où vous venez. Alors, ça m'a intéressé. Il n'est pas monté très haut, mais j'ai appris comme ça. Alors, les parents de ma mère étaient italiens, Le père donc de mon père était d'origine italienne. Mon père donc en France était français. Et j'ai la mère de mon père. Vous savez ce qu'elle était? Vendéenne.
C'est quand même un havre de sécurité cette maison.
Oui,
de repos.
Oui, bien sûr, de repos. Oui. Mais quand c'est très beau, les gens viennent là-bas, c'est une chose qui m'étonne, puis alors qui m'énerve maintenant quand les gens viennent, ils me disent « Oh, ce que c'est beau, les roses, c'est beau. » Moi, je dis « Je ne vois rien. » Quand vous habitez dans un endroit longtemps, et que longtemps même, depuis quand vous êtes depuis 6 mois dans un endroit, vous ne regardez plus.
Vous regardez moins.
Vous regardez moins. Vous n'êtes pas à la fenêtre en disant « Oh, non, oh, ce que j'habite un beau pays, etc. » C'est pour ça que je dis en riant, si j'avais une cabane au-dessus des chutes du Niagara, je
n'y ferai plus attention.
Non, de temps en temps, je me sortirai, je mettrai la tête de la fenêtre, je dirai à Marie, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Voilà.
À regarder.
Eh oui.
Oui. Mais c'est quand même là que vous travaillez la plupart du temps.
Oui, oui, c'est là. C'est là. Puis je travaille à Milan, dans un studio avec l'orchestre que je connais bien. Et ça, c'est agréable pour moi parce que c'est pas loin de la maison.
Oui. Et vous avez des projets encore? En
oui,
cours.
Mais oui, j'ai des projets, alors j'en ai trop maintenant, je vais pas arriver à le faire, alors ça m'embête.
Quels sont ceux que vous allez réaliser?
Ah, je sais pas, vous savez, j'en sais rien, moi. J'ai trop de choses à faire. J'ai des trucs à moitié fait, aux trois quarts fait, puis que j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, puis... J'ai un tango qui est fait, la musique est écrite pour un orchestre symphonique, qui dure 20 minutes, ça dure 20 minutes. Il me reste à écrire les percussions, les chœurs et le bandoneon. J'avais envie de demander à comment il s'appelle, Piat Azzola, le fameux bandoniste, hein.
Oui.
Et il n'y a pas de parole dedans. Et par la musique, on comprend que c'est quelque chose, que c'est un coup de poing contre les généraux argentins.
Alors finissez-le vite, qu'on puisse l'entendre.
Et oui, alors ce qui me ferait formidablement plaisir, c'est qu'on interdise ça uniquement avec la musique. Alors j'aurais gagné, là.